les jardinières.
Bienvenue chez les jardinières, c'est parti pour le mois de février qui commence plutôt en douceur. Mais on dit aussi février, le plus court des mois est aussi le pire 100 fois. Pour adoucir tout ça, installez-vous confortablement, nous allons parler jardin durant une heure. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Et pour nous parler de biodiversité et répondre à vos questions jardinage, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysage à Queuve. Merci d'être avec nous ce matin.
Et bienvenue à toutes et à tous. On se lance dans une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Jean-Pierre, les températures s'emportent. On se croirait presque au début du printemps, alors que le mois de février débute à peine. Du coup, on a envie de se lancer dans le jardinage. Mais est-ce qu'il faut quand même se méfier du froid qui pourrait revenir ?
Alors oui, bien sûr, à l'évidence, à cette période, la période douce que l'on vit ne va certainement pas durer. Et puis, ces prémices ne doivent pas nous emballer dans les aménagements. Parce que ce froid qui va arriver derrière va créer certainement de la casse sur les travaux que vous aurez réalisés. Donc, en tous les cas, tout ce qui est de semis, de plantation, on est beaucoup trop précoce. Ce que l'on peut quand même réaliser, bien sûr, dans ces aménagements par ce temps clément, c'est tout ce qui est de taille, de nettoyage de parcelles, de feuilles encore si ça peut rester, de massifs, de vivaces, ça c'est tous des travaux que l'on peut réaliser, et puis attendre encore un peu patiemment que la prochaine période hivernale passe, ça veut dire début mars, pendant ce mois de février, pas grand chose encore à réaliser. Après, il ne faut pas avoir trop peur de cette température clémente qui est présente en ces temps. Bien sûr qu'on peut admirer déjà quelques arbustes comme les viornes, les amamélis qui s'épanouissent déjà en fleurs à cette période. Mais on sait très bien que c'est des arbustes qui fleurissent très très tôt au printemps, même par temps de neige, et puis ne sont pas annonceurs de dégâts sur la végétation.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Pour poser vos questions à notre spécialiste, rien de plus simple, il vous suffit de composer le 0900 70 20 20 pour lui parler en direct. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question en remplissant le formulaire sur notre site ou alors sous l'onglet émission questions jardinières ou alors simplement nous écrire un SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question, vous terminez par votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Et c'est de biodiversité que nous allons parler ce matin. Entre les prairies fleuries, les haies vives ou encore les tas de branches, il y a de quoi faire pour laisser entrer la nature dans son jardin. On verra tout ça après une pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous allons faire entrer la nature dans vos aménagements extérieurs et favoriser la biodiversité. Jean-Pierre, il existe plusieurs possibilités et moyens pour le faire. Par exemple, la fameuse prairie fleurie. Vous avez d'autres exemples à nous citer pour commencer ?
Oui, bien sûr, on peut réaliser des haies vives, on peut installer des hôtels à insectes, on peut faire des zones humides, on peut faire des biotopes, on peut laisser des zones fleuries vraiment en friche qu'on ne va pas faucher, on peut faire des tas d'herbes qui va faire office de refuge, de protection hivernale contre la microfaune. Oui, bien sûr qu'il y a plusieurs possibilités, même un tas de souches bien entassées peut faire office de refuge et puis fait partie de cette biodiversité.
Et Jean-Pierre, pourquoi est-ce que c'est si important de laisser de la place à la biodiversité dans son jardin ?
Eh bien parce que les zones à bâtir gravitent chaque jour un peu plus de mètres carrés sur le milieu nature. Et puis si la grande faune arrive à se déplacer facilement et puis se répartir le reste des surfaces possibles, eh bien sûr que cette microfaune qui habite autour de chez nous, qui sont dans nos milieux, qui sont dans les espaces bâtis, eh bien pour leur donner des zones de protection, d'hivernation, eh bien il est important de laisser des zones nature, un max disponible pour toute cette microfaune.
Jean-Pierre, parmi les exemples pour favoriser la biodiversité, il existe les haies vives. Alors, à la différence des haies à espèces uniques, par exemple une haie de thuya uniquement, la haie vive, elle mélange plusieurs espèces. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques espèces parfaites pour une haie vive ?
Oui, bien sûr, dans les haies vives, on va rencontrer volontiers tout ce qui est des viornes, des sureaux, le sureau rouge, le sureau le noir, on a le fusain, on a les chèvrefeuilles, on a les troènes, on a le nerprin, on a le prunus padus, les sorbiers. Enfin, la liste, elle est longue. C'est toutes ces espèces que l'on rencontre volontiers dans nos sous-bois, dans les haies indigènes, dans ces zones où la végétation reprend pied sur une friche. Et puis l'avantage de ces essences, eh bien sûr, elles sont super acclimatées à notre situation. On n'a jamais de problème de sec. Au niveau des attaques parasitaires, eh bien, ils sont tellement denses par chez nous qu'on ne peut pas avoir une plante qui va se trouver éradiquée, hormis le buis, bien sûr, qu'on n'implante plus dans nos espaces, parce qu'on connaît tous le problème de cette fameuse spirale qui nous les mange et qui nous les fait périr.
Mais alors, quels sont au juste les avantages de ces haies vives ?
Et bien justement, l'avantage, c'est des essences qui sont vraiment adaptées à chez nous. C'est des essences qui produisent du fruit, qui sont volontiers chapardées par tout ce qui est des volatiles et des rongeurs. On reste dans un cadre type de nos régions. Il est plus intelligent, je pense, de faire une haie vive que de mettre une haie de forsythia ou de spirée, parce qu'évidemment, je trouve que la qualité paysagère est nettement meilleure. Et puis, on aura volontiers beaucoup plus de microfaune qui va venir s'y implanter, alors que dans une haie d'une espèce type monotype, type tuya, qu'on ne plante de toute façon plus, je pense pas que ce soit encore de coutume maintenant, mais on peut encore faire des haies de photinia, de prunus. Et bien évidemment, on va plutôt se rabattre sur des haies plutôt dans le charme, le hêtre, le troène, ces essences qui sont vraiment types à chez nous, qui donnent pas beaucoup plus d'entretien. On aime aussi volontiers mettre tout ce qui est en haie, si vraiment les haies de lierre sur clôture, c'est une haie qui est super intéressante, qui reste verte durant l'hiver, qui donne pas trop d'entretien et puis qui donne aussi une super protection au niveau des animaux par rapport à l'hiver.
Le choix est donc vaste et varié pour les haies. Merci Jean-Pierre. On va se retrouver dans un instant pour la suite des jardinières. Et nous verrons qu'un tas de pierres ou de branches peuvent également offrir des refuges aux petits animaux ou aux reptiles.
7h, 8h, les jardinières.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queuve et l'invité des jardinières jusqu'à 8h. On parle de biodiversité ce matin. Il y a quelques minutes, vous nous avez expliqué l'importance des haies vives, mais d'autres techniques sont possibles pour favoriser la biodiversité, comme par exemple un simple tas de bois.
Oui, alors on peut pas appeler ça un simple tas de bois, parce que pour le réaliser et puis le faire comme chef-d'œuvre, il y a quand même un peu des mesures à prendre. Alors c'est vrai que ces tas de bois, on aime les faire, on aime les placer dans des endroits un petit peu ensoleillés, évidemment, en tout cas pas trop à l'ombre, ou alors en lisière de haie, ça peut se faire, mais en tout cas pas en plein milieu d'une haie. Et puis l'avantage de ces tas de bois, eh bien ça reste vraiment des lieux refuges pour tout ce qui est de microfaune qui va volontiers s'y mettre à l'abri. Par contre, pour le réaliser, on va prendre soin de réaliser une petite fosse centrale d'une profondeur de 20 à 30 cm sur une distance de 50-60 cm par 60 égales. Et puis dans cette fosse, on va lui mettre un substrat, volontiers une litière forestière qu'on peut ramasser soit dans le bord de nos haies, soit dans un bord de route où on a des feuilles d'automne qui se sont un peu décomposées avec un peu de substrat. Donc on va mettre une épaisseur de 20 à 30 cm de ce matériel dans ce trou. Ensuite, on va prendre soin de prendre deux ou trois gros rondins de bois d'une circonférence de 30 à 40 cm qu'on va mettre de chaque côté. Et puis seulement après, on va commencer d'entasser les déchets de bois, les branchages en fait, que vous aurez à disposition. On va prendre soin au début de mettre des branches assez conséquentes pour tenir, vraiment faire une toiture par-dessus ce lit de substrat qu'on aura réalisé. Et puis par-dessus, eh bien, les branches vont s'entasser l'une sur l'autre pour arriver à une hauteur d'un mètre, 1m10, 1m20. C'est pas forcément la hauteur qui va être importante, c'est vraiment la base qui sera importante. Et puis il n'est pas forcément nécessaire d'y laisser une entrée ou des entrées pour que la microfaune puisse intervenir dans ce lit de dormance qui se trouve dessous, parce que de toute façon, hérissons, les mustélidés, les hérissons, ils auront tout loisir d'arriver à s'y introduire et puis passer soit une période hivernante en dormant, soit un lieu refuge durant la journée, soit une température acceptable quand il fait très froid, soit de l'ombre quand il fera très chaud cet été. Et puis l'entretien de ces tas, et bien évidemment chaque année on va régénérer avec les déchets de taille que l'on a. Évidemment, faut pas faire un compost, hein, il faut quand même des branchages qui soient un peu conséquents de 80 à 1 mètre de longueur qu'on entasse gentiment, qu'on recharge chaque année. Et puis là, vous avez un super lieu de vie pour tout ce qui est mustélidés et autres qui nous accompagnent tous les jours dans nos aménagements extérieurs.
Et Jean-Pierre, on voit aussi parfois des tas de pierres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de ces tas ?
Oui, alors bien sûr, ça s'appelle murgier d'ailleurs, c'est des tas qu'on réalise volontiers dans les prairies sèches. Les tas de pierres, les murgiers, on les fait vraiment sur une zone très ensoleillée parce que l'avantage du murgier, c'est quelque chose qui va emmagasiner la chaleur du soleil durant la journée, redonner cette chaleur à la nuit et puis va favoriser des tout autres animaux comme les serpents, les lézards, tous ces animaux qui sont à sang froid. Et puis là, pareil, on va prendre soin de faire une fosse centrale avant la réalisation du tas. On va chercher des pierres plutôt allongées qu'on va poser par-dessus les côtés de cette fosse. Là, on peut laisser la fosse vide. Et puis après, on va entasser soigneusement les pierres par-dessus en faisant une voûte ou trouver une pierre plate pour faire justement un toit par-dessus cette fosse. Et puis là, on prendra peut-être soin de laisser des espaces un petit peu plus conséquents sur deux ou trois sorties présentes face au soleil parce que évidemment tout ce qui est de ces animaux qui viendront s'y prendre refuge, chercheront volontiers le soleil pour en sortir et puis se protéger par rapport à ces murgiers. Et puis là, on préfère aussi avoir de la pierre calcaire parce que chez nous, c'est quelque chose qui défigure pas le paysage, qui est vraiment intégré à chez nous. Il y a de temps en temps des tas bêtement qui sont mis en vrac, qui peuvent aussi faire office de murgier, mais à l'évidence, nous, on préfère avoir quelque chose un peu plus déco, avec une application plus sensée de ces pierres l'une sur l'autre.
En plus de décorer le jardin, ça apporte le retour des petits animaux. Les pierres, c'est surtout pour les reptiles, les petits lézards et toutes ces petites choses.
Oui, alors bien sûr que tout ce qui est à sang froid va chercher les zones chaudes. Et puis c'est aussi pour ça que ces murgiers, on va vraiment les mettre sur des endroits plutôt bien exposés soleil. Parce que même si c'est trop chaud, eh bien ils pourront se mettre en refuge à l'intérieur, trouver la température qui leur convient par rapport à la distance extérieure. Puis c'est très joli en plus, je trouve que ça fait un plus dans le milieu nature.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on va parler encore un peu de cette biodiversité. Mais tout d'abord, retour de la musique, de la météo et de l'inforoute. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des jardinières.
Les jardinières.
Deuxième partie des jardinières et nous parlons de biodiversité. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. Il est avec nous jusqu'à 8h. On va parler biodiversité mais il va aussi répondre à vos questions jardinage.
Et trois possibilités pour nous joindre et pour poser vos questions à notre spécialiste. Tout d'abord, vous avez le choix du téléphone au 0900 70 20 20. Vous aurez la chance de parler en direct avec nous. Vous pouvez aussi remplir le formulaire disponible sur notre site. Vous pouvez aussi joindre une photo à votre question. Ou alors, par SMS, vous tapez « jardin, un espace », votre question et votre nom, vous nous l'envoyez au 939.
Jean-Pierre, en première partie d'émission, on parlait de biodiversité. Vous nous avez parlé de murgiers, ce sont des tas de pierres. Vous nous avez parlé de tas de bois, de haies vives. On parle aussi souvent de prairies fleuries chez les jardinières. Tant de possibilités de faire entrer la biodiversité chez soi. Mais une chose reste importante quand on s'occupe de ça, c'est le choix des plantes. On choisit, Jean-Pierre, bien sûr, des plantes indigènes.
Oui, bien sûr, parce que il serait insensé d'aller mettre un pied de bambou, un pied de forsythia, un pied de piracanta dans une haie indigène. Il va pas du tout cadrer, hein. Le badaud qui connaît rien à la biodiversité va quand même se rendre compte qu'effectivement il y a un élément qui est en surplus dans une haie indigène si on a vraiment une couleur complètement hors par rapport à ce que l'on a pour habitude chez nous. Et puis on peut aussi préciser que pour ce qui est des aménagements des tas de bois, Eh bien, bien sûr, on va aussi prendre soin de mettre des branchages qui sont issus soit de nos haies vives, soit d'arbres fruitiers, soit d'arbres indigènes à chez nous de grande taille. Mais en tous les cas, pas des déchets de tuya, pas des déchets de laurier et puis pas des déchets de bambou. Parce que, ça se décompose pas très bien. On a ces déchets de feuilles qui vont tacher, qui feront moche dans le milieu nature. Tandis qu'un tas de bois qui est bien ordonné avec un joli bois vert, de préférence, on va pas prendre trop de bois sec parce que on va essayer de pérenniser au mieux ce tas de compensation pour justement cette biodiversité. Puis par rapport à ça, le bois vert indigène à chez nous est vraiment requis, quoi. Voilà.
Et Jean-Pierre, vous êtes paysagiste professionnel. Ce sont des choses que vous mettez en place dans vos chantiers?
Oui, très volontiers et très couramment. On a souvent de la demande. C'est souvent aussi dans des compensations écologiques. Alors bien sûr, des fois de grande envergure. On aime aussi à réaliser des tas d'herbes, des grands tas d'herbes, parce que quand on fait ces fauches de prairies fleuries à cette période, ben évidemment, ce déchet de végétal est sec et s'empile facilement. Pour ceux qui seraient tentés de faire un tas d'herbes pour des hibernations d'hérissons, de microfondes, on aura volontiers l'envie de poser un grand tuteur central, et puis après on mettra ce déchet de fauche d'herbe tout autour. Ce tuteur que vous mettrez à l'intérieur va permettre une stabilité du tas d'herbe qui sera quitte de tanguer à un moment donné sur la droite et la gauche, et puis vous aurez un super lieu de refuge, de protection hivernale pour tout ce qui est d'un microfaune. Et puis après, dans un milieu nature, c'est pas quelque chose qui va être défigurant, au contraire, on se rend volontiers compte de ces éléments qui sont mis en plus, qui améliorent et puis qui enrichissent ce paysage.
Et quel plaisir de croiser un petit hérisson en été sur sa terrasse pendant qu'on prend le café. Merci beaucoup Jean-Pierre. Désormais on verra ces tas de pierres, ces mûriers ou des tas de branches d'une autre manière. On sait à quoi ça sert. On va se retrouver pour la suite des jardinières et vous répondrez aux questions de nos auditeurs.
7h, 8h. Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous avons parlé biodiversité. On va répondre à vos questions jardinage. Alors, Brian, on va peut-être rappeler comment faire pour nous joindre si vous avez une question jardinage qui vous brûle les lèvres.
Eh oui, vous avez trois possibilités pour nous joindre. La première, c'est par téléphone au 0901 70 20 20. Vous aurez la chance de parler en direct avec notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire disponible sur notre site internet. Vous aurez l'occasion de joindre une photo à votre question. Et puis, troisième possibilité, par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et votre nom. Et vous nous l'envoyez au 939.
Nous avons reçu une question de André de Corban qui fourmille de détails. On a pris une question une version un peu plus allégée pour vous la poser, Jean-Pierre. On parle de haies, des espèces Photinia red robin, de laurier de Lusitanie qui viennent du Portugal et de fusains japonais, des arbustes qui sont en place depuis 2021. Les fusains ont séché. André a mis de l'engrais, des copeaux au pied des arbustes. Ils ont été traités pour des parasites et semblaient aller mieux, mais ils recommencent à ne pas aller bien. Alors que faire? Est-ce que vous avez des conseils, Jean-Pierre, pour l'entretien des arbustes d'André?
Oui, alors ces trois essences qui sont persistantes, qui conservent donc leur feuillage durant l'hiver. Et puis, il y a un cycle naturel qui est donné, qui évidemment doit permettre une chute d'une partie du feuillage et puis un assèchement des brindilles intérieures comme le Photinia ou le laurier du Portugal. Après, la question, c'est par rapport à ce fusain, pourquoi est-ce qu'il s'est desséché? Alors évidemment, sans être présent sur terrain et puis sans voir l'implantation, comment ça se présente, l'exposition, si on est sur un sol aride ou profond, il est plus difficile à répondre à cette question-là. Je sais que le fusain, il est connu qu'il peut avoir des grosses attaques d'odium, mais de là à le faire périr, pas très sûr. Ce qui est aussi à relever dans l'histoire, c'est que André a mis du copeau au pied des arbustes. Alors, on met de temps en temps du copeau, on préfère nettement plus du compost, parce que le copeau est un élément qui va se décomposer gentiment, qui va créer une carence en azote dans le sol, parce que pour se décomposer, ce copeau, il va puiser justement l'azote du sol. et puis il n'est pas forcément très positif. Par contre, si vous pouvez enlever ce copeau et puis lui mettre un compost frais, des places, des compostières que l'on a dans la région, alors prenez soin justement de ce compost qui soit froid. On ne le met jamais en place chaud, parce que sinon vous pouvez poser des gros dégâts de brûlure au collet des arbustes quand vous avez un compost trop chaud. Mais le compost est vraiment plus rationnel que le copeau. Et puis André nous parle de mettre de l'engrais. Alors bien sûr, il est obligé de mettre de l'engrais par rapport à ses copeaux pour compenser cette carence qui pourrait arriver à cette décomposition. Après, faut pas trop baliser, dans le sens où de toute façon en hiver, on va perdre une partie du feuillage. C'est comme les conifères, c'est comme toutes ces haies où c'est persistant. À un moment donné, ils peuvent pas rester verts à l'intérieur et l'extérieur. On a un rajeunissement naturel. On parle sur 3 ans. En général, le feuillage de 3 ans tombe, et puis l'année d'après revient le nouveau. Et puis il y a un remplacement naturel qui se crée. C'est plutôt une question de taille. Peut-être le fotinia, on le connaît. C'est quelque chose qui se développe vite, fort. Et puis le tailler assez régulièrement pour avoir une densification des ramilles, pour fermer la haie, si c'est le souhait d'André. L'usitanica également, le laurier du Portugal, c'est quelque chose qui supporte très très bien les tailles. On pourrait le plier totalement comme le laurier persistant. Eh bien, c'est des arbustes qui supportent très bien des grosses tailles. Après, à l'évidence, on évite, donc une taille régulière est plus judicieuse pour éviter d'avoir une haie totalement mise à nu lors d'une grosse intervention.
Merci beaucoup. Merci. Jean-Pierre, pour vos conseils. On espère qu'André va pouvoir mettre tout ça en place. Brian, suite des questions avec un poirier.
Un poirier, une question d'ailleurs qui nous vient de Alice de Nau. Bonjour, nous avons un petit poirier, il faudrait le tailler. Pouvez-vous nous aider et nous dire quelle branche tailler ? Merci pour votre aide. Alors elle nous a joint 3 photos que vous avez sous les yeux, Jean-Pierre.
Oui, alors je peux répondre à Alice assez facilement par rapport aux photos. En fait, pour les auditeurs, c'est un poirier en palmette, ça veut dire une forme de V avec un axe central. Et puis sur la photo, on se rend compte que les 2 charpentières inférieures, celles qui provoquent ce V, cette palmette, eh bien elles sont plutôt frêles par rapport à l'axe central qui a pris vraiment de l'envergure, avec un développement conséquent dans son sommet de brindilles de l'année passée. Alors dans un élément comme ça, pour égaliser les forces, il faudrait vraiment diminuer le volume du branchage sur l'axe central. Le fait de le diminuer va supprimer une bonne partie du feuillage qui va tirer de la sève. Et puis l'avantage, c'est de diminuer cet afflux de sève sur l'axe central pour remettre des forces sur les 2 branches inférieures. Et puis on est sur une taille de formation, mais dans ce cas-là, on va pas faire de taille de prolongement, parce qu'on est sur un porte-greffe très faible qui est voué à produire un maximum de fruits sans trop de bois. Puis sur une taille de ce genre, on va en tout cas pas demander de bois. Donc on va plutôt soit tout sectionner la brindille de l'année passée ou la pousse de 2 ans, et puis plutôt attacher les branches qui seraient peut-être verticales sur les levées, sur la palmette, pour diriger nos futures charpentières. Et puis comme ça, j'ai pas trop de soucis, le poirier va s'épanouir dans le temps.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On va rester dans les arbres fruitiers, dans les greffes, avec cette question de Blaise de Couvet, qui est une petite question qui lui trotte dans la tête. Pourquoi les arbres fruitiers sont quasiment tous greffés ?
Oui, bien la réponse elle est facile à donner. À l'évidence, les essences indigènes comme le poirier ou le pommier, c'est des fruits qui sont très petits, pas forcément comestibles, qui étaient souvent utilisés dans le passé pour le fourrage des cochons, qui cuisaient encore pour arriver à être consommables. Et puis par le temps, eh bien l'homme a développé, découvert, parce que de temps en temps il y a des modifications dans les semis. Et puis une anomalie telle que la Golden par exemple, c'était une variété qui avait été découvert bêtement dans un semis naturel, dans une haie en Angleterre, je crois, dans les années 1940 ou 50. Et puis, le fait de l'avoir découvert, bien, un arboriculteur s'était dit, je vais prélever du matériel végétatif, pas de graines bien sûr, mais végétatif. Et puis il a greffé ce pommier. Et puis par le fait de la greffe, on arrive à reproduire systématiquement et à l'identique chaque variété que l'on a. Et puis bien sûr que maintenant il y a des stations de recherche. On avait Dentsville, on en a quelques-unes ici en Suisse qui essaient de faire des croisements. Et puis prennent des étamines d'une pomme pour un pistil d'une autre pomme. Et puis mettent en culture ces pépins, et puis tout à coup sort une super variété qui peut être protégée par des royalties que toute pépinière ne peut pas produire parce qu'elle a été protégée, justement recherchée. Et puis c'est ce qui permet justement d'avoir cet achalandage de sortes de variétés de pommes, de poires, de coins, de prunes. On est obligé de les greffer pour les reproduire parce que de toute façon les semis, alors tout à coup sur un semis naturel vous pourriez avoir une super pomme. Faudra-t-il encore avoir le potentiel de la découvrir et puis de la mettre en valeur, mais le semis n'est pas du tout fidèle, et puis il peut pas être fidèle par le fait que les croisements sont antérieurs à plusieurs générations de ces fruits, et puis pour les produire on est vraiment obligé de les greffer, et puis encore ça va nous permettre de choisir un porte-greffe type qui va nous favoriser soit un haut tige, soit un mi tige, soit un bas tige ou un fuseau. Enfin pour les connaisseurs des arbres fruitiers, c'est quelque chose de très connu. Il est des fois la première question à se poser quand on va faire une plantation, de se dire quel porte-greffe avant de se dire quelle variété. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une dernière question. Après la pause musicale, on parlera de piment.
7h, 8h, les jardinières.
7h54 presque chez les jardinières. Le temps de répondre encore à cette dernière question, Brian.
Eh oui, cette question nous vient de Raphaël de Renan. Bonjour, l'année passée, mes semis de piment n'avaient pas poussé parce que je m'y étais pris trop tard. Est-ce que je peux déjà les faire maintenant ? Bonne matinée.
Oui, alors pour Raphaël, en fait, je pense qu'on est encore un tout petit peu trop tôt pour des semis de piment, au même titre que la tomate et autres. Je pense que sur fin février, on serait bon. Par contre, ce qu'il faut pour arriver à le réussir, ce semis, c'est d'être au top. Ça veut dire il faut avoir un substrat adapté à un semis, pas trop grossier pour que la semence puisse s'épanouir. On va pas l'enterrer trop profond, hein, parce que c'est des semences qui démarrent relativement très bien. Et puis après, l'important, eh bien sûr, c'est la température et la luminosité. Si vous avez trop de température et pas de luminosité, ce qui va arriver, les plantes vont s'étioler, s'allonger, ne pas s'épanouir, et vont rester jaunes et puis ne seront pas rempotables pour de la plantation isolée en mai. Donc faut vraiment trouver un endroit doux, pas trop chaud quand même, super ensoleillé, et puis une fois que ça démarre, les dédoubler, les repiquer dans des pots individuels pour faire du monoplan, et puis après ça devrait fonctionner. C'est des plantes quand même qui sont relativement faciles à mettre en place, le semis jusqu'à la plantation. Simplement qu'il faut pas se rater par rapport vraiment à la luminosité, pas les mettre en place trop vite dans le carreau, donc à l'extérieur dans le potager, parce que le dégât de froid serait conséquent, et puis pour le reste ça doit s'épanouir sans souci.
Et puis Raphaël, n'oubliez pas de nous donner des nouvelles de vos piments. On a parlé biodiversité ce matin, un sujet que vous pourrez réécouter bien sûr en podcast en cours de matinée sur le site, sur notre site internet.
Et merci beaucoup Jean-Pierre. Jean-Pierre Ribaud, on rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. On vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt.
Merci tout le monde et bon week-end à tous les auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Timothée Grisel, paysagiste au Val de Travers. Et bien sûr, vous pouvez nous faire parvenir vos questions quand vous voulez, soit par SMS, soit par le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières, et vos questions seront traitées en priorité samedi prochain. Bon week-end Brian.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.